verset 17. Gloire et honneur en soi, à travers tous les âges à venir, au roi des mondes, souverain immortel et invisible, du temps et des esprits, lui seul est Dieu. Amen.
Amen.
Donc, amen, on peut aussi le traduire « ainsi soit-il » quand c'est à la fin. Au début d'un discours, c'est plutôt « en vérité », je vous le dis, c'est, voilà, c'est vraiment ferme. Nous avons donc ici juste un verset, mais qui nous parle du Dieu unique, hein, du Dieu qui, lui seul, est Dieu, du Dieu immortel, invisible, royal également. C'est une louange pour la grâce de Dieu qu'il nous a faite. Et nous allons reprendre ce thème dans le chant que nous allons prendre. C'est le 381 dans « J'aime l'Éternel », dans le recueil numéro 2, intitulé « À toi le roi ». Donc le passage suivant, c'est dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Et je vous lis directement le poème. Il s'est révélé dans un corps humain et, déclaré juste par le Saint-Esprit, il a été vu par les anges. Il fut proclamé par les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il fut proclamé parmi les non-juifs. On a cru en lui dans le monde entier. Il fut élevé au séjour de gloire. Ici, nous parlons évidemment de Christ du message qu'il a envoyé après. Je vais vous lire un chant qu'on ne connaît pas, c'est dans le recueil Foi et Louange 312. Je vous incite à bien écouter les paroles. Et on peut avoir un petit fond musical éventuellement. Quand Jésus-Christ parcourait notre terre, faisant le bien, guérissant, délivrant, quel grand amour, quel puissant ministère pour soulager notre monde souffrant. Mais aujourd'hui, Christ est toujours le même. Sa plénitude, il nous la donne encore. Il manifeste sa gloire suprême à travers l'Église qui est son corps. Hier, aujourd'hui, Jésus est le même. Dans son amour, son pouvoir suprême, sa gloire, il veut manifester encore par son Église qui est son corps. Christ est l'apôtre qui fonda l'Église. Il l'édifie et la guide en tout temps. Par les apôtres dans lesquels il palpite, son cœur de père ferme et patient. Il est aussi le prophète de gloire. Et par la voix des prophètes, c'est lui qui nous révèle un chemin de victoire et les desseins de Dieu pour aujourd'hui. Hier, aujourd'hui, Jésus est le même. Dans son amour, son pouvoir suprême, sa gloire, il veut manifester encore par son Église qui est son corps. Évangéliste envoyé sur la terre pour proclamer l'amour tendre de Dieu, Jésus exerce un divin ministère par les évangélistes pleins de feu. C'est encore lui le berger de nos âmes, le grand docteur source de vérité. Dans des pasteurs et docteurs, il s'incarne pour paître son Église et l'enseigner. Hier, aujourd'hui, Jésus est le même, dans son amour, son pouvoir suprême. Sa gloire, il veut manifester encore par l'Église, par son Église qui est son corps. Par des anciens et des diacres fidèles, à travers des mères en Israël, par tous les siens, Jésus-Christ se révèle dans sa force et son amour éternel. Christ est au ciel, mais par l'Esprit de gloire, il vit aussi dans nos cœurs par la foi pour accomplir ses desseins de victoire par son corps ici-bas, c'est toi et moi. Hier, aujourd'hui, Jésus est le même, dans son amour, son pouvoir suprême, sa gloire, il veut manifester encore par son Église qui est son corps.
Amen.
Fin de la lettre, au chapitre 6, au verset 15. Paul a parlé de la future apparition du Seigneur Jésus. Il enchaîne. Voilà. Il est le bienheureux, souverain tout-puissant. Il est l'unique Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel, sa demeure est au ciel, au séjour lumineux. Nul ne peut l'approcher, nul d'entre les mortels ne l'a vu de ses yeux. Nul ne pourra le voir. À lui soit à jamais, honneur et majesté, et pour l'éternité, force et domination. Oui, qu'il en soit ainsi. Oui, qu'il en soit ainsi. Amen.
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 Et donc ici, c'est le retour de Jésus qui est attendu. Impatiemment, évidemment, par chacun de nous, et ce règne qui suivra. Et donc ce règne, puisqu'il était dit au début, roi des rois, seigneur des seigneurs, et bien nous allons prendre cette caractéristique et la chanter. C'est le 214 dans VAS. Deuxième épître à Timothée, hein, on tourne encore quelques pages, chapitre 2, Paul nous prend encore quelques versets, ici les versets 11 à 13, pour coucher les paroles d'une hymne. Si nous mourons avec lui nous revivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Et si nous persévérons, par lui nous triompherons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si, manquant à notre foi, nous devenons infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. Voilà, après avoir évoqué toute la divinité de Christ, au début, son sacrifice, son action en nous, eh bien, ici, Paul nous insiste... Insiste sur notre chemin ici-bas. Qu'avons-nous encore à faire avec Jésus une fois que nous l'avons choisi? C'est de mourir avec lui, c'est de souffrir avec lui, c'est de persévérer avec lui, de ne pas le renier et de pouvoir toujours être pardonné dans nos infidélités. Et comme c'est la fidélité de Christ qui est mise en avant, surtout au verset 13, et bien nous allons prendre ce chant, donc c'est le 400 dans J'aime 2, Dieu ta fidélité.
Bonjour chers amis, chers frères et sœurs. Et donc dans les communications que Vincent a fait, dans les communications il y a, si on pouvait fermer ça l'arrangerait, il y a aussi à la fin du mois de juillet un camp pour enfants, voilà. Contactez Véronique, Bénédicte, Noémie. En deuxième chose, elle vous contactera, on vous enverra. Mais si quelqu'un a été oublié, il faut réagir. Et la deuxième semaine d'août, il y a une retraite pour adultes, pour jeunes gens, jeunes filles aussi, qui ont déjà un certain âge. Un degré de questionnement, d'interrogation, de maturité. Voilà, et que Dieu vous bénisse. Je vais reprendre dans le premier livre des rois, je n'en resterai pas là, ne vous souciez pas de ça, parce que la situation des rois d'Israël n'est pas très, très jolie. Premier livre des rois, chapitre 11. Vous savez que dimanche passé, j'avais abordé Salomon. Et Salomon, dans toute sa grandeur, est tombé bien bas, évidemment. Si vous voulez savoir ce qu'il a fait, vous allez lire Premier Livre des Rois, chapitre 11. Il s'est attaché à toutes les populations, à toutes les races, toutes les régions qui entouraient Israël, et à des femmes. Et il a construit des temples et des maisons pour les femmes et leur religion. Et il a vraiment, vraiment ouvert la porte à des rites démoniaques. C'est grave, c'est très grave. Donc Salomon n'a pas observé les ordres de l'Éternel, bien qu'il ait eu dans son cœur une immense intelligence. Alors, dans le chapitre 11, au verset 11, Dieu intervient. Il dit ceci. L'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu agis de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. » C'est comme si le royaume était un grand manteau sur lui, si vous voulez. Ça ne lui appartient pas. C'est Dieu qui avait mis le manteau sur lui. Et donc, il va retirer le manteau et il va le déchirer, effectivement. « Je le donnerai à ton serviteur, à un ouvrier. » Et c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. C'est encore plus fort. Et je laisserai seulement une tribu à ton fils. À cause de David, pas à cause de toi. Autrement, il n'y aurait plus rien, même pas pour ton fils. Tout cela, vous l'avez dans 1 Roi, chapitre 11, verset 11 et suivant. Donc Dieu est vraiment, vraiment fâché. Fâché. Alors que c'était un royaume exceptionnel, avec un temple exceptionnel, avec des rites exceptionnels, et il y a eu des prières exceptionnelles, il y a eu des moments solennels et exceptionnels. Donc, au verset 14, l'Éternel va enclencher un autre processus. Il suscita un ennemi à Salomon, Hadad l'Édomite, de la race royale d'Édom. Et, bien sûr, ce gars-là, Hadad, va être un ennemi redoutable. Ensuite, au verset 23, Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître, Hadadézer, roi de Tsoba. Donc voilà un deuxième ennemi, Rezon, R-E-Z-O-N. Et c'est pas rien, ce Rezon avait Israël en aversion, au verset 25. Il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Hadad lui faisait du mal, et il avait Israël en aversion. Il régna sur la Syrie. C'est pas étonnant. Verset 26. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, c'est un ouvrier, leva la main contre le roi. En d'autres mots, il voulait lui casser la figure. Et Jéroboam a dû se sauver. Il était fort et vaillant. Il plaisait à Salomon. Et donc, il avait eu la surveillance de tous les gens de corvée. Donc, évidemment, il avait peut-être gagné la sympathie de tous les gens de corvée, de tous les ouvriers, sans que Salomon s'en rende compte, du peuple. Alors, ce qui se passe est phénoménal. C'est au verset 29. C'est que, en ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Ajija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Il n'y a rien dans le hasard. Tout est dirigé par Dieu. Ajija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux. Car ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël, voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, je te donnerai 10 tribus. Il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et dans toutes les raisons, et au verset 39, j'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Un pauvre moyen humain, alors que Dieu avait tranché Jéroboam à aller faire son œuvre. Parce que Dieu l'avait autorisé. Et donc Salomon ne pouvait pas s'opposer, évidemment. Mais regardez à quel point l'aveuglement de Salomon était grand. Au chapitre 12, il y a des événements majeurs, au chapitre 13 aussi, au chapitre 14 et 15. Je ne peux pas les citer aujourd'hui, je ne peux pas approfondir cette situation. Je vous invite à lire tout le chapitre 11 jusqu'au chapitre 15. Nous sommes dimanche, prenez du temps. Et quand Dieu ne bénit plus, regardez à quel point les choses tournent mal. Alors, je voudrais vous dire ceci. C'est une réflexion que j'ai émise. Quand je priais, j'étais tout seul avec le Seigneur. L'insensé est celui dont les projets s'arrêtent à la tombe. L'insensé est celui dont les projets s'arrêtent à la tombe. Point barre, il n'y a plus rien après. Pourquoi ? Parce que l'insensé n'a jamais ouvert réellement la porte de son cœur à Dieu, pour qu'il règne dans son cœur. L'insensé peut proclamer le nom de Dieu, peut louer, prier, mais il n'a jamais ouvert la porte de son cœur à Dieu. C'est de la duplicité. Comprenez-vous ? Par rapport à cela, Ambroise, un des pères de l'Église, a dit ceci. Le sein des pauvres, la maison des veuves, la bouche des enfants, voilà les greniers qui durent éternellement devant Dieu. Le sein des pauvres, la maison des veuves, la bouche des enfants, voilà les greniers qui durent éternellement. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'exercer la miséricorde, d'exercer l'amour et la vérité. Naturellement, cet exercice ne peut naître que d'un cœur qui appartient à Dieu. Et il ne s'agit pas d'un cœur insensé qui puisse engranger éternellement de cette manière. Parce que celui qui aime les pauvres, le sein des pauvres, la maison des veuves, la bouche des enfants, toute sa vie, il ne sera jamais riche. Et il ne va jamais avoir un grand succès politiquement et religieusement. Simplement, il est un serviteur comme Jésus a lavé les pieds de ses disciples dans Jean chapitre 13. Voilà une partie de mes réflexions pour aujourd'hui. Évidemment, ce n'est pas fini. Mais je suis un peu pris à dépourvu. Voilà, je ne suis pas pris au dépourvu, heureusement. Donc, la pauvreté des églises, en amour réel de Jésus, s'exprime toujours en pauvreté réelle envers les frères. Quand les cœurs sont embourgeoisés et individualistes, l'amour pour les frères est simplement parfois sentimental et parfois souvent narcissique. Et la pauvreté des églises peut disparaître. Elle peut laisser place à la richesse spirituelle. Pour cela, chacun des frères et des sœurs dans l'Église doit s'adonner à une véritable adoration du Père des cieux et de Christ, dans le Saint-Esprit. Il doit s'adonner au jeûne et à la prière consacrée, à l'adoration consacrée. C'est-à-dire que ce n'est pas épisodique, ça devient une manière d'être entière, totale. La prière consacrée, l'adoration consacrée, consacrée. Cette prière, ce jeûne, cette adoration n'engendre jamais la division dans les couples, la division, l'abandon des jeunes dans les églises et les divisions des frères et des sœurs. Jamais. Ce sont des artisans de paix, ceux qui sont consacrés dans l'adoration, le jeûne et la prière. Consacrés, j'ai bien dit. Aujourd'hui, les chrétiens ont une grande chance. Nous sommes tombés si bas, mais nous avons une chance énorme d'un renouveau spirituel. Je pense qu'on devrait avoir honte d'avoir perdu la vraie puissance spirituelle. La perte de la vraie puissance spirituelle dans nos vies, dans nos églises, doit nous obliger à retrouver la vérité. C'est une chance pour nous, aujourd'hui. Et regardez bien dans Romains chapitre 1, versets 16 à 17. C'est un verset que je vais lire un peu autrement qu'on le lit d'habitude. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ce qui m'a intrigué aujourd'hui matin en lisant ces versets, en les méditant, c'est que Paul dit « je n'ai point honte ». Donc, c'est qu'il est possible d'avoir honte, c'est qu'il est possible de laisser de côté la marche par la foi, il est possible pour des chrétiens de laisser la puissance de l'Évangile de côté. Il est possible de prétendre avoir la foi et d'avoir une affiche, un nom dans la foi et de ne pas vivre par la foi. Lorsque je suis venu dans le monde évangélique, j'étais zélé, j'étais encouragé par beaucoup, évidemment, et nous étions en train de faire une façade à une église à 25 km d'ici, gratuitement, avec des réfugiés qui logeaient chez nous. Et un chrétien, certainement expérimenté dans la foi depuis longtemps, s'approche et me prend à part, et Jean me dit « Est-ce que tu sais ce que c'est que marcher par la foi ?» Moi, je lui dis « Non, je ne sais pas. » Eh bien, il me dit « Tu vas bientôt l'apprendre. » C'était véritablement une prophétie. C'était vraiment une prophétie. Parce que c'est ce qui s'est produit. Comment un chrétien s'approche de moi quand je suis occupé à faire une façade? Il y avait du boulot. On était joyeux et tout. Je le faisais parce que j'avais la foi, j'aimais cette église, j'aimais les autres chrétiens, etc. Et les réfugiés qui étaient chez nous, au moins, ne s'ennuyaient pas, ils se rendaient utiles. Et voilà qu'ils rencontraient aussi des autres chrétiens, quand ils voulaient bien se laisser approcher. Évidemment, parce que ce n'est pas des fois facile, certains chrétiens ne se laissent pas approcher. C'est un gros problème, là. Alors, ce qui s'est passé, pourquoi cet homme s'approche et me dit « Tu vas apprendre ce que ça veut dire marcher par la foi. » Parce que tout simplement, il se rendait compte que j'étais en route, en marche, mais je ne connaissais pas vraiment la clé de la vie chrétienne. Alors, la clé de la vie chrétienne, bien sûr, c'est quand on dépasse la honte, c'est un sentiment. L'amour, l'emballement pour l'Évangile, c'est un sentiment. Quand on dépasse toute cette adhésion par la chair pour l'Évangile, quand on oublie l'adhésion sentimentale à l'Évangile et la honte, l'autre extrême, parce qu'on peut avoir les deux en même temps, vous savez. Dans un certain cas, on est très heureux de parler de Jésus, autre part, oulala, on se mettrait comme une souris dans un trou pour ne pas parler. Hein? Bon, Ou parce qu'on est fâché, on est enragé, on ne veut pas parler de Jésus ce jour-là, on est mal disposé. Un autre jour, on a des hormones, je ne sais pas, ça joue, mais en plus, on a bien mangé, on a bien dormi, on se réjouit de parler de Jésus. Tout ça, ce sont des phénomènes humains, et on pense que c'est la foi. Mais il faut être dans la puissance de Dieu. Et c'est cela qui est mis dans verset 16. Il faut être dans la puissance de Dieu. Donc, la foi, marcher par la foi, c'est uniquement dans la puissance de Dieu. C'est plus dans les sentiments, c'est plus dans la chair. C'est un cap difficile à passer. Et parfois, on ne comprend rien. Comment ça peut être si différent? Alors, c'est quelque chose qui s'éclaire par l'action du Saint-Esprit. Évidemment, c'est lui qui prend autorité. Alors, j'ai ouvert aussi la Bible autre part ce matin, la nuit, et je vais reprendre un verset de Apocalypse 3:20 que tout le monde connaît, enfin les chrétiens en général. On pense bien le connaître. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici ce que Christ dit à l'Église. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est un verset classique qu'on entend dans beaucoup de prédications, qu'on a lu dans des livres. C'est très sympathique. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette parole? Eh bien, il y a un ordre. L'ordre, c'est « ouvre ta porte ». Ouvre ta porte. Ça a assez duré que je ne règne pas dans ta vie. Ça a assez duré que je ne sois pas le Seigneur. Tu m'as pris comme sauveur, mais pour le reste, tu m'as mis dans le placard. Ouvre ta porte. Pour cela, il te faut vaincre le moi. Et regardez bien, il s'est clairement mis au verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Il y a donc une bataille, et il faut que cette bataille soit suivie d'une victoire. Et cette bataille, oui, elle est grande. En quoi y a-t-il une bataille? Eh bien, la bataille, c'est l'auto-illusion, c'est la présomption, c'est l'encensement du cœur par soi-même, c'est une imagination personnelle. J'ai l'assurance du salut, je suis bien. Dans l'assurance du salut, frères et sœurs, je vais vous dire ceci. Je suis assuré que Christ est fidèle à mon égard. Je suis assuré que toutes les grâces à la croix ont été acquises pour moi. Mais je me méfie de mon péché. Je me méfie de moi. Et je ne suis pas assuré de moi-même. Ne confondons pas. L'assurance du salut, c'est pas l'assurance de moi-même. Alors, c'est souvent le dérapage se fait. On glisse sur la peau de banane de la séduction personnelle. Le péché nous séduit, vous savez bien dans l'Épître aux Hébreux. Attention que le péché ne te séduise. Alors regardez au verset 15, Apocalypse 3, 15, « Je connais tes œuvres, donc tes actions, tes engagements, enfin tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, etc. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Imbuvable. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » L'or, c'est l'adoration. L'adoration pure, consacrée à Dieu. Éprouvée par le feu, la parole de Dieu. Jérémie, chapitre 23. N'est-ce pas, verset 25 ou 24. « Ma parole n'est-elle pas comme le feu qui purifie, le marteau qui brise le roc ? Quel roc ? Mon cœur. Et le feu de Dieu doit tomber par la parole. Sur quoi ? Sur ce que je veux offrir à Dieu. » Les offrandes chez les Juifs étaient brûlées par le feu qui descendait du ciel. Dieu ne voulait pas un feu qu'on apporte. Nous aussi, notre feu n'intéresse pas Dieu. C'est le feu du Saint-Esprit qui consacre notre personne. Et donc, acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, la foi, l'adoration consacrée par le feu de la parole et du Saint-Esprit, parce qu'ils sont inséparables. Afin que tu deviennes riche, c'est-à-dire en Christ. Et d'événements blancs, l'événement de Christ, les œuvres saintes de Christ, pas les miennes. Et afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Mettre un collier dans les yeux quand on a de la conjonctivite, hein, ou une pommade, ça va, ça dure un jour ou deux. Moi, depuis quelques mois, je dois mettre régulièrement 4-5 fois des gouttes dans mes yeux parce qu'ils se dessèchent et ça me brûle. Pourquoi ? Allergie ou poil de chat, peu importe. Pollution dans l'air ou tout simplement les glandes lacrymales qui fonctionnent mal. Mais le collier, dans mon cas, si je ne l'ai pas, j'arrive plus à lire la Bible. Mes lunettes, j'arrive pas à voir la route convenablement. Je n'arrive plus à connaître les choses comme je les connaissais. Donc le collier est absolument indispensable dans mon cas. Eh bien, spirituellement, les chrétiens ont besoin du collier spirituel. Du collier qui donne la bonne vision de l'âme. Et regardez dans Éphésiens chapitre 1, que les yeux de votre cœur, de votre âme soient illuminés. Lisez, vous allez voir. Par qui ? Cherchez. Éphésiens chapitre 1. Alors, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Et donc, du zèle, repens-toi. Zèle, c'est le feu. Repens-toi, donc change de vie, comportement. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Donc, l'ordre, c'est clair, ouvre la porte. Et ensuite, au verset 21, obtiens la victoire. Engage-toi. Engage-toi contre qui ? Le diable ? Le monde ? Les autres ? Non. Contre l'auto-illusion, contre l'embourgeoisement de mon âme, contre le moi-je auto-satisfait, contre une fausse notion de l'assurance du salut. Alors, Jésus nous aime. Et c'est grâce à ça, je me tiens à la porte, je suis assuré de mon salut, parce que lui est là. Je ne me forge pas mon assurance du salut. C'est lui l'assurance de mon salut. Alors, ça change tout de savoir ça. Il n'y a jamais de notion psychologique de l'assurance du salut. C'est toujours une grâce, ou ça n'existe pas. Tout homme, finalement, j'ai une réflexion, c'est une réflexion qui m'est venue. Quand je me lève, je me suis levé à 6 heures, j'ai besoin d'être tout seul. Pourquoi ? Ben, pour ne pas dire des âneries, j'en dis toujours quand même. Hein. Tout homme est maître de la maison de son cœur. C'est sa forteresse. Oui. Qu'il veuille ou non, il doit en ouvrir les portes. Son privilège est de pouvoir ouvrir la porte ou de refuser d'ouvrir la porte. Ça, c'est le privilège de l'homme. C'est là qu'on ne descend pas du singe. Adieu, monsieur Darwin. Alors, toute victoire momentanée, toute victoire due à un élan sentimental, à un engagement épisodique, à un emballement suite à une prédication, suite à un message sur Internet, peu importe. Tout cela, attention, si ce n'est pas durable, ce n'est pas une victoire. C'est simplement la chair qui se réjouit d'avoir entendu la parole de Dieu. Il faut une grande victoire. Il ne faut pas une triste victoire momentanée. C'est-à-dire une victoire qui finira mal. Dieu n'a pas voulu de victoire momentanée et épisodique dans ma vie. Il a voulu sa victoire de la croix en moi. Et je n'ai ni de bonheur, ni de victoire hors d'une relation vraie avec Jésus. Finalement, j'ouvre la porte et je ne la referme jamais. Et je mène le combat pour la victoire, pour rester avec mon maître et mon Seigneur. Prenons Éphésiens chapitre 3, verset 17. Éphésiens, chapitre 3, verset 17. Ô combien, chers amis, ô combien j'aimerais que la foi redevienne le feu de l'Europe. Éphésiens chapitre 3, verset 17. Qu'il vous donne, je vais commencer au verset 14, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, nous y voilà, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. C'est connaître, hein, c'est pas comprendre intellectuellement. Connaître, c'est vivre avec. Comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, si j'ouvre la porte, si je l'ouvre totalement, et que j'ai une relation de prière, parfois de jeûne, de service aux autres, de service de Dieu, consacré, c'est-à-dire total, sans retour, pas partagé, pas calculé. Alors, je peux dire ceci, au verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qu'agit en nous, regardez, c'est ça, l'être consacré. Celui qui peut faire par la puissance qu'agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, amen. Dans toutes les générations, on est concerné. Dans toute l'Église, dans l'Église, on est concerné. Tout nous concerne. L'Esprit Saint prend autorité sur ma citadelle ouverte. Ouverte. Victoire. Victoire. Je vais aller avec vous dans Nombre chapitre 14, verset 7. Non. Qu'il est difficile, mes amis, de donner des messages régulièrement. C'est complètement dépouillant, décapant. Il n'est pas question d'inventer des choses, d'aller les chercher en soi. Il n'y a rien en soi. Il faut que l'Esprit Saint dirige et éclaire. Quelle pauvreté! L'expérience de la pauvreté. Et puis tout d'un coup, le Seigneur, boum, donne le chemin. La pauvreté est le chemin, est la porte. L'humiliation est la porte. Pour l'œuvre de l'Esprit Saint, pour vous comme pour moi. Nombre 14, verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, ben oui, il y avait deux gars de chaque tribu, hein, et ça tournait mal, hein. Il n'y en a que deux qui ont dit on peut y aller. Tous les autres, ils ont crevé les pneus, c'est une image, ils ont dégonflé les âmes de tout le peuple. De même, vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Voilà ici une expérience où ces hommes qui ont eu une mission et qui devaient revenir avec un encouragement et réellement avoir un cœur ouvert à Dieu. Voilà la réalité. Vous porterez la peine de vos iniquités. Quand vous regardez Salomon, c'est la même chose. Et combien de chrétiens aussi portent la peine de leur fermeture réelle à Dieu, ou même des églises. Vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Laodicée, Jésus est hors de l'Église, derrière la porte. Mais dans le Christ, Christ qui est fidèle, Christ qui a donné sa vie sur la croix, Christ, dans sa permanence, dans son amour, dans sa grâce, veut toujours que les Églises vivent et soient lui, et soient dirigées par sa parole et le Saint-Esprit. Il n'est pas question de rester isolé 40 ans de Dieu. Si nous avons péché, il faut ouvrir la porte de notre forteresse personnelle. Et il faut accepter un amour nouveau pour Christ. Regardons, bien sûr, dans Romains 14. Romains 14. Romains 14, versets 7 à 9. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Ben évidemment, c'est, Paul l'a dit, mais est-ce que nous le croyons vraiment? Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, donc à Christ. Car Christ est mort, il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Et voici ce qui est dit, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Là, Laodicée, la porte est fermée, pourquoi? Parce que si je l'ouvre, Christ va diriger. Christ va diriger. Et le gros problème, ça je remarque à beaucoup de places, c'est qu'on ne veut pas de la direction de Christ. Oui, on veut bien croire en lui et prendre les avantages de sa croix. Mais être dominé par Christ, être dirigé, ça c'est une autre paire de manches. Et je vais vous dire, ce que ce frère avait dit, Jean, tu sais ce que c'est de vivre par la foi, de marcher par la foi? Ben oui, marcher par la foi, c'est être dominé par Christ, être dirigé par lui. Et ce sont ces versets-là. Romains 14, versets 7 à 9. C'est intangible. Alors, nous allons dans le chapitre 12 de Romains, au verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, le salut de Christ, hein, et son ministère aussi, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Sentiments modestes. Plus Dieu veut déverser de la foi dans mon cœur, plus je serai modeste et humble. Le chemin de la pauvreté, où Dieu m'enrichit, par le don de la foi, marchez par la foi, les amis. Oui, vous et moi, marchons par la foi. Marchons par la foi en ayant des sentiments humbles et modestes, qu'a dit Dieu à Michée, Sisué. Voici ce qu'on t'a enseigné, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu aimes la justice et que tu pratiques la miséricorde. Alors, j'ouvre si j'entends, je reprends la Odyssée 3.20, hein, Apocalypse, j'ouvre si j'entends. Si Christ frappe à la porte et que j'entends rien, je suis sourd. Hein, bon, ça commence un peu, hein, ça devient un problème. Alors, vivement l'appareil. Alors, ce qui se passe, j'ouvre si j'entends. Mais qu'est-ce que ça veut dire si j'entends? Si j'ai pas entendu, c'est pas de ma faute. Je pourrais dire, j'ai toutes les excuses possibles. On ne m'a jamais dit ça. On ne m'a jamais enseigné ça. J'ai jamais rien compris. Je suis un pauvre handicapé spirituel. Prenez pitié de moi. Qu'est-ce que vous cherchez? À vous apitoyer sur vous-même et que les autres prennent pitié de vous. Mauvais chemin. Très mauvais chemin. J'ouvre si j'entends. Ah ah! Comment, les amis? Comment? Romains, chapitre 10. Chapitre 10, verset 8. Que dit-elle ? Donc, la foi, hein ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Donc, il ne s'agit pas d'une distance géographique avec une maison, une porte, et puis peut-être encore 20 mètres et une barrière. Jésus-Christ derrière la barrière, ce n'est pas du tout ça. Ici, il s'agit de simplement que la proximité de Christ est tellement grande qu'il désire me parler. Qu'il a le pouvoir de me parler. Et il a toute autorité de me parler. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Christ a l'autorité de me parler. Il est là. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Ben, le pouvoir d'abord de parler à mon cœur et à mon âme. Ça commence là. Et de diriger ma vie. Alors, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, la personne qui a un cœur ouvert, qui a un cœur qui se laisse toucher par la parole, c'est ça le problème. Si nous, chrétiens, nous laissons la Bible sur la table de nuit et nous attendons le culte pour entendre le pasteur, on va capter un verset ou deux. Tout le reste, on va oublier. Si je laisse ma Bible pendant des années au placard et je vais sur Internet, j'écoute des prédications, les amis, je n'ai pas fait mon devoir. C'est dans la Bible que Jésus me parle. Tous les jours, c'est là qu'il veut me parler et me toucher. Alors, au verset 12, voici ce que Paul dit. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous le même Seigneur. Pas de différence. Nationalité, tribu, langue, tout le bazar. Alors, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Jésus-Christ est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Ça y est, je lui parle, je lui dis, viens dans ma vie, Seigneur. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc je sors de ma forteresse, je sors de mon privilège abusif de lui dire non, et je l'aime. Je l'aime plus que moi-même. Prenons le livre des Cantiques des Cantiques. Cantiques des Cantiques. Donc, dans la foi chrétienne, et c'est évident que dans l'éducation des enfants, dans l'éducation même des adultes, si on a des programmes de sanctification, d'édification dans l'Église, c'est jamais pour satisfaire le moi-je, le narcissisme. Jamais. C'est râpé d'avance, c'est fini. Alors, nous allons voir dans le Cantique des Cantiques au chapitre 2. Chapitre 2, verset 7. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Donc la tsunamite, il faut qu'elle désire l'amour. Il faut qu'elle désire une relation d'amour. Et un amour total. Pas charnel, total, entier. Et donc, l'appel ici, l'ordonnance, est de ne pas réveiller une personne artificiellement pour croire ensuite qu'elle aime Dieu. Bien souvent, on a réveillé artificiellement, charnellement des gens, et ils n'ont jamais reçu l'œuvre de l'Esprit-Saint, l'action directe du Seigneur dans leur cœur. C'est un gros problème, ça. Alors, nous allons continuer. Au chapitre 3, verset 1, « Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. » Alors, au chapitre 3, verset 1, « Je pense, chers amis, que c'est dans la solitude que Dieu voit si je le désire vraiment. C'est dans la solitude, sans aucun artifice, que Dieu voit réellement si, tiens, aujourd'hui, elle a vraiment un désir honnête à mon égard. C'est fini la comédie. Elle est dans la droiture à mon égard. Alors le Seigneur va agir. Mais le Seigneur est prudent. Il ne donne pas la perle au pourceau. Au chapitre 3, verset 3, 5, chapitre 3, verset 5, je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. C'est un désir honnête, sincère et véritable qui doit faire la jonction avec la parole de Dieu. La jonction, la porte s'ouvre. La grâce est là, ma responsabilité est là. Il n'y a pas de fatalité dans le salut ou dans le non-salut. Regardons dans le chapitre 5, Cantique des Cantiques toujours, verset 10. Chapitre 5, verset 10 à 16. Ce sont des versets formidables, fantastiques. Ça, c'est un moment de contemplation de la gloire, je pense, de Christ. Hein. Une vision, une préfiguration. Mon bien-aimé est blanc et vermeil, et il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites, son corps est de l'ivoire poli couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur, son aspect comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami. Alors là, chers amis, chers frères, vis-à-vis de Jésus, il faut déclarer son amour. Ce n'est pas d'ouvrir la porte seulement. Il faut déclarer un amour comme ça. La passion pour Christ. La passion pour Christ. Alors nous verrons des merveilles dans notre Europe. La merveille de l'amour pour Christ. Quand il est droit, juste et saint, il est animé automatiquement par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient. Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Alors, je ne suis plus un pourceau. Dieu peut donner sa perle, l'Esprit Saint. Le dynamisme de l'amour est mon futur. Ou déjà mon présent. Le dynamisme de mon témoignage tous les jours est mon présent, mon futur. Le dynamisme de ma mission dans la vie, pas une vie pour soi, de ma mission dans la vie, c'est la clé, ce sont les conséquences de la vraie vie avec Christ. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 11, « Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. » Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. L'expérience spirituelle intérieure, chez les baptistes, on n'est pas très mystique, mais enfin, ici, il ne s'agit pas de mysticisme, il s'agit d'une réalité, cette communion. Cette communion est c'est une réciprocité. Et regardez bien, je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Et il n'y a pas de plus fort et de plus grand que l'expérience de Christ pour moi. Ça regonfle le moral, même si j'ai le cancer, même si j'ai le Covid, même si j'ai une jambe cassée. Ça me porte pour toujours. Je regarde vers le ciel, je regarde vers Christ, et non plus vers les misères, et l'amertume n'est plus là. Alors, nous allons continuer. Le témoignage, vous savez bien que la parole est tout près de mon cœur, et si j'y adhère, je la confesse. C'est clair. Mais dans Romains 10, il y a encore autre chose, évidemment. La clé du témoignage est exprimée. Romains 10, ça serait un peu court si je ne lisais que ce verset-là. Romains 10, il est dit ceci, verset 14 et suivant. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Il s'agit de l'humanité. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Ben oui. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Envoyés. On ne fabrique pas des leaders, des missionnaires. Il faut vraiment une vocation, un choix de Christ pour que ça tienne la route. Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je dis, n'ont-ils pas entendu ? Au contraire, leur voix est allée dans par toute la terre, et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. C'est ce que Paul dit dans Timothée aussi. Et il ne s'est pas trompé, Paul. C'est effectivement le cas, hein, aujourd'hui, de toujours. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su ? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et donc, vous lisez Romains, chapitre 11, hein, 25 à 35, vous allez voir que c'est effectif. C'est clair, le peuple juif revient à Christ par l'effet de tous ceux qui ont cru en Christ et qui leur rapportent l'évangile. Alors, Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Et donc, Dieu est capable de frapper aux portes fermées. Comprenez-vous ? Et l'évangile s'est répandu, les portes sont ouvertes. Le croyons-nous ? Et au verset 21, au sujet d'Israël, il dit « J'ai tendu ma main tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant, mais aujourd'hui, beaucoup de Juifs se convertissent. » Énormément ! Donc, l'autorité de la parole de Dieu s'accomplit. Donc, les portes s'ouvrent. Je voudrais, chers amis, qu'aujourd'hui, nous reprenions courage, que nous ayons la joie d'être chrétiens, et la joie d'avoir cette communion avec Christ. Et la joie d'un dynamisme authentique, profond, vivant. Pas artificiel, basé sur l'autosuggestion, la musique, je ne sais pas quoi. Les grands symposiums, etc. Il en faut peut-être. La joie de la mission, oui. Jean 15, verset 16. Jean 15. Ne vous tracassez pas, j'ai bientôt fini. Pour ceux qui paraissent longs, qui doivent mettre les casseroles en route, etc., recevoir des personnes. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Les âmes sauvées. Voilà ce que nous avons. Notre souci, c'est des âmes sauvées, des brebis perdues qui sont récupérées par Christ. Et c'est cela la mission. Regardons dans Actes, chapitre 4. Actes, chapitre 4, verset 29. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. les apôtres avaient eu forte affaire avec le Sanhédrin, les chefs juifs. Hein. Maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un cœur et qu'une âme. Fini de rester dans sa forteresse personnelle. Le moi-je et l'individualisme. Fini. Les portes sont défoncées par la grâce. La plus belle preuve, c'est Paul, le dur de dur, le tueur, on peut dire ça, l'ayatollah Paul, hein, et bien sur le chemin de Damas, sa porte a été défoncée. Là, il y en a aujourd'hui dont Dieu défonce sa porte, Christ. Dans la Odyssée, ce sont les chrétiens. Ceux-là croient que la porte est ouverte alors qu'elle ne l'est pas. Et c'est là qu'il faut vraiment se repentir et changer. Et donc, chers amis, aujourd'hui, c'est avec joie que je vous encourage. Je vous encourage à vivre l'Évangile. Le désir de recevoir quelqu'un de plus fort en soi, et d'être plus fort, fait partie de la condition humaine. Ce désir est tellement fort en nous qu'on compte sur les autres, on compte sur l'Église, on compte sur les amis, on compte sur la famille. Et il est finalement aussi, il y a quelque chose qui se passe, les autres désirent qu'on soit leur soutien. Ce sont, je dirais, des comportements qu'on trouve dans les Églises. Mais, je dois résister à mon désir individuel et narcissique d'influencer les autres pour qu'ils m'assistent. Je dois résister à ce désir d'aider les autres pour qu'ils m'assistent. C'est un désir calculateur et qui n'est pas du Saint-Esprit. Le véritable ministère d'encouragement de tout chrétien est dépouillé de tout souci de retour, tout souci de récompense. Toute recherche de soi-même. Nous devons nous tenir tranquilles devant Christ et vivre de sa grâce en silence. Si nous avons un ministère d'encouragement, et je le souhaite pour vous tous, nous serons toujours seuls, il y aura toujours des bévues, il y aura toujours des malentendus, des souffrances. On se retrouvera toujours seul à un moment donné. Et il va falloir toujours revenir à son Seigneur pour rester solide. C'est là qu'on voit ceux qui aiment vraiment le Seigneur. C'est là qu'on voit ceux qui ont vraiment un ministère d'encouragement. Quel que soit l'effet, négatif ou positif, ils sont fidèles à ce message. Allez, allez, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La vertu de la solitude, mes amis. La vertu de la solitude. La solitude développe la connaissance de Christ. Le chemin de la connaissance passe tout droit par la vallée de la solitude profonde. La connaissance de Christ passe aussi par l'amour des autres, par l'approche des autres. Mais il y a toujours un recto verso à une pièce d'un euro. Il y a la profonde solitude. C'est une vallée profonde où parfois on souffre très fort. Parce qu'on passe par là quand on veut encourager les autres. Parce que l'être humain ne nous rend pas forcément ce qu'on lui a donné. Même dans les églises. Et le chemin de la fidélité, de la miséricorde, doit s'ancrer sur une relation d'adoration, de consécration de la prière, parfois dans le jeûne, pour tenir bon. Voyez, frères, le chemin de la foi. Marcher par la foi. Jeannot, est-ce que tu sais la différence entre avoir la foi et marcher par la foi? Non, je ne sais pas. Ben, tu le sauras bientôt. Eh bien, chers amis, oui, soit vous le savez déjà, soit vous le saurez bientôt. Alléluia, que Dieu vous bénisse.